La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le mythe qui fonde la biographie d'Ernest Hemingway passe d'abord par ses balades qu'il faisait avec son père au bord de Walloon Lake, carabine en main, à chasser sur ces terres qui comptaient encore au début du XXe siècle des tribus d'Indiens Ojibwa. Et puis il y aura ensuite d'autres expériences viriles mais traumatisantes, au premier rang desquelles la guerre de 14 qui le blesse aux jambes et lui fait connaître l'horreur. Hemingway s'est voulu aventurier, il l'a payé au prix fort. Il se donnera d'ailleurs la mort à l'âge de 61 ans, comme nous l'avons vu hier avec Gérard de Cortance au cours d'une émission à retrouver en podcast. Demain, nous parlerons du style de celui qui reçut le prix Nobel de littérature en 1954, au travers en particulier de ses livres « Le soleil se lève aussi » et « Le vieil homme et la mer ». Notre invitée sera Clara Mallier. Et puis jeudi, nous reviendrons sur la vie d'Hemingway à Paris, et notamment les conditions d'existence de cette bohème américaine dans la capitale française de l'entre-deux-guerres. Nous serons pour ce faire avec Jean Bessière. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler en particulier du thème de l'expérience des limites et de la transgression chez Hemingway, nous sommes avec vous, Redouane Aboudahab. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature américaine à l'Université du Mans. Vous travaillez notamment sur l'écriture et donc l'expérience des limites. C'est un thème de recherche dont on parlait beaucoup en France durant les années 60-70, l'époque de la revue Telle Quelle, en particulier chez Solers, qui avait publié en 1968 un essai intitulé « L'écriture et l'expérience ». Expérience des limites, dans lequel il parlait de Dante, de Sade, de Bataille également. Et pour vous, il y a une filiation justement entre ces auteurs sulfureux et Hemingway.
Oui, tout à fait. Hemingway reste l'écrivain de la transgression, même si c'est une transgression qui n'est pas aussi explicite et apparente. Tout chez lui est en demi-teinte, dans le sous-entendu, dans la suggestion, ce qui lui a permis de libérer son récit dans plusieurs directions simultanées, à savoir dans une direction un peu populaire, qui a pu satisfaire les attentes du lecteur américain moyen, disons, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'athlétisme, à l'aventure, à toute cette façade vitrine où on peut produire des preuves de son identité, de sa virilité, et en même temps quelque chose de plus subtil, de plus violent, dans le sens pulsionnel de l'expression, et qui a beaucoup intéressé les écrivains.
Donc il y a plusieurs niveaux de lecture chez Hemingway.
Tout à fait. Ouais. Il y a plusieurs niveaux de lecture, oui.
Qu'est-ce que vous voyez de commun, alors par exemple, entre Bataille et Hemingway, qui semblent tout de même des écrivains très différents l'un de l'autre?
Tout à fait. J'ai fait un travail de recherche, fut un temps, sur justement alors ce qu'on peut appeler influence, même si je n'aime pas trop ce terme, l'influence de Hemingway sur Bataille, et notamment sur l'écriture de Histoire de l'œil, qui est le premier récit écrit par Georges Bataille, publié en 1928, 2 ans après la publication du Soleil se lève aussi d'Hemingway.
Qu'il avait donc lu probablement, alors en anglais sans doute, parce qu'il n'était pas traduit encore à ce moment-là.
Tout à fait. Bataille dit que c'est Queneau qui lui a présenté Hemingway, mais en fait j'ai fait une petite recherche et j'ai montré que Bataille connaissait déjà Hemingway. Il se rencontrait chez Gertrude Stein dès les années 1925-1926, dans la biographie de Syria, Michel Syria, sur la mort à l'œuvre, Georges Bataille, la mort à l'œuvre, c'est une biographie formidable. On a pu trouver aussi des points de rencontre possibles entre les deux. Et Bataille s'intéresse à l'Espagne, en fait. À l'époque, il cherchait un moyen de pouvoir libérer ses angoisses, parce que lui-même est passé, dit-il, il a découvert le rire nietzschéen alors qu'il voulait être séminariste, il voulait être prêtre, etc. Il a rompu, il est passé de l'autre côté, et je pense que Hemingway lui a donné les moyens littéraires, dans Le soleil se lève aussi, pour comprendre que de cette violence-là, on peut faire une œuvre, et que cette violence, on peut l'intégrer dans son propre système imaginaire et l'adapter à ses propres désirs enfouis.
Alors l'histoire de l'œil commence par cette phrase. J'ai été élevé seul et aussi loin que je me le rappelle, j'étais anxieux des choses sexuelles. Et vous, vous dites que c'est comme ça qu'il faut lire Hemingway. Il faut lire Hemingway avec les concepts bataillens d'angoisse et d'érotisme pour mieux saisir l'expérience des limites à l'œuvre chez l'écrivain américain.
Tout à fait. Bataille, c'est quand même, c'est un philosophe, c'est surtout un philosophe avant d'être un romancier, même s'il est essayé, Madame Edwarda, enfin tous ces récits sulfureux, mais il y a une certaine conceptualisation philosophique dans sa fiction. Et ce qui est intéressant chez Bataille par rapport à Hemingway, c'est la relation en effet entre l'érotisme et la mort. Dans son livre « L'érotisme », le livre commence par cette phrase « L'érotisme est l'approbation de la vie ou l'acceptation de la vie jusque dans la mort ». Et moi, c'est ce « jusque dans » qui m'a intéressé, parce que « jusque dans », il est à la fois qualitatif et en même temps spatial. Et on voit bien qu'il y a une tension de franchissement de la limite, un point de tension entre le possible et l'impossible, la vie et la mort. Et c'est là, finalement, qu'on trouve le meilleur de Hemingway. C'est dans ces points de tension où quelque chose peut éclater à un certain moment. Ça n'éclate jamais, mais il nous maintient sur cette ligne de crête où l'écriture devient elle-même limite. Vous voyez, c'est-à-dire, elle est acérée, il y a une sorte de tranchant, et il arrive à maîtriser. À la limite, on dirait comme un matador cherche à maîtriser la fureur et la puissance du taureau, lui, il va chercher à maîtriser cette pulsion par une certaine écriture très exacte, très précise, tranchante, justement de précision et d'exactitude.
Alors vous parlez de corrida et vous parlez de Bataille, qui lui aussi, tout comme Hemingway, aimait l'Espagne et aimait la corrida. Et là aussi, c'est un point de convergence.
Tout à fait. Avec Bataille, avec Léris aussi, toute cette mouvance qui était surréaliste au départ. Et l'Espagne a exercé, en effet, un attrait très puissant sur Hemingway. C'est Gertrude Stein qui lui a conseillé de partir en Espagne, 1923, donc pendant ses années vertes. Il venait juste d'arriver à Paris 2 ans auparavant. Et lui qui a baigné dans une culture protestante et américaine qui valorise le sport, là trouve quelque chose d'à la fois physique, athlétique, où il est question de produire des preuves de sa force, mais où il y a un excès qui devient ou qui est pris en charge par ce qu'on peut appeler une grammaire. Et Michel Léris a écrit un compte-rendu de Mort dans l'après-midi, qui est le traité d'Hemingway sur la tauromachie. Il était très fier de pouvoir écrire un livre plus ou moins savant, qui est le premier grand livre sur la tauromachie, a fait un compte-rendu de cet ouvrage. Alors, Michel Léris, c'est l'homme de miroir de la tauromachie aussi. Et peu de temps après, il écrit de la littérature conçue comme une tauromachie, dans laquelle il dit que son rêve d'écrivain, c'est de pouvoir écrire la vérité et lui donner ce tranchant-là comme la corne acérée du taureau. Donc la corne acérée du taureau peut être une métaphore pour justement traduire les enjeux de l'écriture d'Hemingway. Elle est acérée, elle est puissante, elle nous place sur une limite justement où le protagoniste ou le personnage important risque de perdre la vie à tout moment. Et quand il franchit une certaine limite, ce franchissement-là peut être parfois entendu comme une rupture. On ne peut plus revenir en arrière. Et c'est ça, finalement, qui est intéressant chez Hemingway lorsqu'on pense à la limite. C'est qu'il y a une dimension où la limite est une frontière qu'on peut franchir, revenir, repartir. Donc là, c'est toute la force de l'imaginaire américain. Mais la limite, c'est aussi une butée, un écueil et quelque chose qui engage définitivement, c'est-à-dire qui peut changer le personnage. Et une fois le personnage changé, il ne peut plus s'appuyer sur ces points de réconfort qui lui permettaient de tenir jusque-là.
Est-ce que généralement les personnages d'Hemingway franchissent la limite ou est-ce qu'ils se tiennent justement comme le torero espère tout de même ne pas mourir à l'issue de la corrida? Est-ce que les personnages se tiennent à l'orée de cette limite?
Oui, je pense que ces personnages les plus importants évoluent dans cette orée-là. Alors je pense à un personnage comme Harry dans Les Neiges du Kilimandjaro, Francis McComber aussi, qui se transforme à un certain moment et ça a été magistralement traduit par l'heure triomphale de Francis Macomber. Au départ, c'est The Short Happy Life of Francis Macomber. Et donc, c'est un moment, la vie de Macomber se condense dans cette heure-là, dans ce moment de vérité, où il arrive à se libérer de ses peurs et où il arrive à affronter la mort dans le sens finalement de l'accepter et de s'accepter lui-même avec ses failles. Et donc il y a toujours une nécessité de se libérer de la peur et de pouvoir jouir en quelque sorte de la mort en étant à l'orée de cette mort, dans la proximité de cette mort. Chez Hemingway, il n'y a pas le néant, parce que on a souvent, selon moi, souvent fait des lectures un peu existentialistes d'Hemingway. On a compris la limite comme étant justement cette butée sur l'absurde, le non-sens, au-delà il y a le néant. Et chez Hemingway, c'est pour ça qu'il est proche de Bataille, c'est que justement au-delà de la limite, il y a la jouissance. Bataille parlait de la joie devant la mort. Alors, Hemingway parle de la vérité devant la mort. C'est peut-être aussi un point de différence entre les deux.
Sur la différence Bataille-Hemingway, on peut peut-être aussi noter que la recherche de la limite, elle n'est peut-être pas exactement la même, dans le sens où Bataille, ce qu'il recherche, c'est une forme de perversité, alors que Hemingway, il est plutôt dans la réalisation d'un désir. Est-ce qu'on peut dire alors que Hemingway est différent de Bataille dans ce sens-là? Est-ce que lui n'est pas dans cette perversité, selon vous?
Tout à fait. Alors,
il faudrait définir perversité.
Il faudrait définir perversité et perversion, mais il y a toujours une perversité dans l'écriture. Mais c'est vrai que chez Bataille, ce qu'on voit dans l'histoire de l'œil, Madame Edwarda, etc., on voit un peu ce que la psychanalyse appellerait un scénario pervers. Et le concept, comment Bataille va conceptualiser cela, c'est qu'il dit dans l'érotisme, c'est que la morale est au service de l'érotisme. Plus la morale, plus le mur, ou la limite de la morale est épaisse, plus le plaisir de franchir produit de la jouissance. Et donc on voit là...
La transgression, c'est le plaisir de la transgression.
C'est le plaisir de la transgression en asservissant, en assujettissant la morale au désir, ou à l'érotisme, ou au fantasme. Chez Hemingway, ce qu'on voit, c'est plutôt le couple loi et désir. C'est que la loi, finalement, sert le désir. Elle permet au désir de se développer en imaginaire. Et on voit bien que sa perspective, elle est sublimatoire. Il est vraiment dans la sublimation, là où Bataille est en effet dans un scénario pervers, parce qu'il n'y a jamais d'arrêt. Rien ne peut stopper cette jouissance en développement et en expansion. La structure du récit, d'ailleurs, histoire de l'œil, c'est que ça ne s'arrête pas.
Vous avez un exemple de cette sublimation de la loi chez Hemingway?
Elle est partout, alors dans les nouvelles, dans les romans, dans Le Soleil se lève aussi, justement. La position même de Jake Barnes comme étant un homme qui a perdu son organe sexuel à cause de la guerre.
Qui est devenu impuissant.
Qui est devenu impuissant, mais qui n'a pas perdu la faculté de ressentir le plaisir sexuel. Alors je ne sais plus par quel miracle anatomique, mais Hemingway disait c'est comme ça, voilà, je l'ai conçu comme ça. Il va sublimer ce qui manque là dans justement la tauromachie. Et tous ces personnages vont être dans la quête de ce qu'on peut appeler une autre jouissance. Une autre jouissance que la jouissance phallique qui peut être traduite par la pêche. Par exemple, Nick Adams, on peut dire qu'il est marié avec la pêche.
Alors toujours est-il, Redouane Aboudahab, que l'expérience de la limite, c'est sans doute dans les nouvelles qu'on la retrouve le mieux, comme par exemple dans cet extrait de la nouvelle « Le papillon et le tank » où la limite qui est ici expérimentée, c'est celle de la violence.
C'est à ce moment que tout a commencé. Un civil, en costume marron, chemise blanche et cravate noire, les cheveux lissés en arrière à partir d'un grand front, qui allait de table en table en se livrant à des pitreries, aspergea un des garçons avec un pulvérisateur. Tout le monde rit, sauf le garçon, qui portait à ce moment-là un plein plateau de consommation. Il était indigné. « No hay derecho !» dit le garçon, ce qui veut dire « vous n'avez pas le droit de faire cela ». En Espagne, cette phrase constitue la protestation à la fois la plus simple et la plus catégorique. L'homme au pulvérisateur, enchanté de son succès, ne paraissait nullement se soucier du fait que la guerre durait déjà depuis près de 2 ans, que nous étions dans une ville assiégée où tout le monde était à bout de nerfs et qu'il était un des 4 seuls civils de l'endroit. Il aspergea un autre serveur. « No hay derecho !» dit-il. Mais cette fois, ce n'était pas une protestation. C'était un acte d'accusation. Et je vis 3 hommes en uniforme se lever de table et se diriger vers le plaisantin. Puis, aussitôt après, les 4 hommes se ruaient dehors par la porte tournante. On entendit le claquement sec d'une gifle lorsque quelqu'un frappa au visage le tireur facétieux. Quelqu'un d'autre ramassa le pulvérisateur et le jeta dehors. Les 3 hommes rentrèrent. Leur visage était sérieux, dur et fier. Puis la porte pivota, et l'homme au pulvérisateur rentra aussi. Ses cheveux étaient rabattus sur ses yeux. Il y avait du sang sur son visage. Sa cravate était tiraillée de côté, sa chemise ouverte et déchirée. Il se débattait farouchement maintenant. Quand le coup de feu partit, j'empoignai la fille robuste par le bras et plongeai vers la porte de la cuisine.
Une lecture par Georges Kless. Qu'est-ce que vous retenez? Quelle est votre analyse finalement de cet extrait d'Edouane Abou Dahab?
Cet extrait me fait penser à une nouvelle qui est paradigmatique, qui pourrait l'éclairer, qui est Les Tueurs. Où il est question de 2 tueurs qui sont venus pour exécuter un boxeur fugitif, mais qui n'arrivent plus à s'enfuir. Et donc c'est Yannick Adams, le personnage récurrent chez Hemingway, qui va pour avertir le boxeur, mais le boxeur ne peut plus s'enfuir. Il est comme paralysé, il a le dos tourné, il regarde le mur, etc. Et on en a fait 11 versions, je crois, filmiques de cette nouvelle qui fait 4 ou 5 pages. Et bien évidemment, une histoire détective story, etc., avec les gangsters nourris par toute la violence des années 20, de la mafia, de la pègre, etc. Et la violence n'éclate jamais. Elle est maintenue dans le récit, comme dans le tableau de Hopper d'ailleurs, Night Hawks,
dont on parlera peut-être
tout à l'heure, c'est quelque chose qui risque de se produire à tout moment, et donc toute la tension dramatique du récit va être accumulée par cet événement qui va se produire à un moment, mais avec un personnage qui ne peut plus s'enfuir, et c'est là où le récit prend une nouvelle direction. Au départ, il y avait la possibilité de partir, de s'enfuir, de porter de nouveaux masques, de se déguiser, un peu de faire un peu le picaro en quelque sorte, un récit picaresque, on se déguise comme Huckleberry Finn et on continue, on est mobile. Mais à un moment, il y a une sorte d'immobilité, de paralysie où le voyage devient un voyage immobile.
C'est le piège qui tout d'un coup se referme sur les protagonistes.
C'est le piège.
On teste la limite jusqu'à ce que le piège se referme sur vous.
En effet, c'est le piège, et puis c'est un peu une sorte de mélancolie poétique. C'est quelque chose qui retient et qui dit un point d'énigme qu'on a nommé tout à l'heure, le rapport ambigu entre justement le désir et la mort. C'est que la mort, elle est jouissance. Elle n'est pas quelque chose qui est négatif. Elle ne relève pas de cette négativité de la mort qu'on trouve un petit peu dans la philosophie occidentale en général, chez Jan Kalevitch, Hegel, etc. Elle est vraiment, oui, elle est bataillienne en ce sens, voire lacanienne, puisque la mort, c'est la jouissance.
Alors là, évidemment, ce que vous dites appelle la biographie, à tort ou à raison, mais Hemingway s'est suicidé. Dans sa famille, il y a toute une série de suicides. Il était attiré par la Première Guerre mondiale. Il a voulu aller sur le front. Il a d'ailleurs été traumatisé par cette guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre l'expérience de la limite telle qu'il l'exprime dans son œuvre et son expérience biographique à lui?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a un rapport familial comme sa généalogie qui est assez troublant. Et en même temps, il y a un désir d'émulation de son grand-père maternel qui, lui, a fait la guerre civile, c'est-à-dire la vraie guerre. Et sa mère n'arrêtait pas de parler de son cher père à elle. Et donc pour Hemingway, il y avait un certain défi du patriarche. Il voulait faire comme lui. Donc dès l'âge de 18 ans, il s'engage, il cède un peu aux compagnies de Wilson pour participer à la guerre. Et là, il a failli perdre la vie quand un obus, en effet, autrichien a explosé pas loin de là où il se cachait dans un tranché. Et ses camarades sont morts, etc. Et donc, ça a été, Hemingway avait déjà été happé par l'amour de l'écriture en tant qu'enfant, par la lecture, par le livre. Par cet appel de l'intime, de quelque chose qui cherche à se dire. Enfant, il avait, à l'âge de 11 ou 12 ans, déjà écrit une nouvelle, puis il animait le journal de son collège. Bon, il était déjà dans l'écriture, dans la chose littéraire. Mais il me semble que cette blessure a ouvert comme une fenêtre sur cet au-delà de la vie. Il l'a vu, il y a goûté. Et dans le premier récit où apparaît Nick Adams, donc dans une miniature, parce qu'il a publié une série de miniatures, il les appelait des chapitres, tout simplement, quand il était à Paris, 1924, il présente le moment où Nick Adams est blessé, justement. Mais le regard est comme exalté, il est lumineux, il prend le soleil, il y a une certaine luminosité dans la manière de dire la mort. Alors, les commentaires d'Hemingway sont toujours formels. Il n'y a jamais de narrateur qui va émettre une opinion qu'on pourra nous ensuite décortiquer. Il faut qu'on regarde comme on regarde un tableau et qu'on voit les analogies entre les formes, les symboles, etc. Et là, on voit en effet que la mort ouvre sur une jouissance, quelque chose qu'il ne peut pas nommer, mais sur laquelle il va revenir dans l'adieu aux armes. Dans l'adieu aux armes, il dit qu'au moment où il a reçu la bombe, enfin l'obus, il a senti son esprit sortir de son corps et revenir dans le corps après. Et dans cette sortie, dans cette décorporation, il y a justement cette jouissance de la mort qu'il a vue et qu'il va quêter par l'écriture.
Donc la limite et la jouissance du franchissement de la limite, c'est peut-être aussi la limite entre fiction et réalité ou entre réalité et fiction. On sait que Hemingway a passé vraiment sa vie à aduler l'art littéraire et à chercher vraiment à s'y donner totalement. C'est l'une des limites donc, que vous voyez. On sait aussi que c'était un affabulateur, donc il l'a passé aisément, la frontière justement entre la réalité et la fiction lui-même.
Oui, mais je crois qu'il y a un engagement, en effet, comme vous dites, littéraire. C'est dans la scène littéraire textuelle que ça se joue. Et son écriture, je l'ai toujours vue comme de structure à la fois syllectique.
C'est-à-dire
qu'elle peut donner l'impression, enfin, elle est, d'être un déploiement réaliste, objectiviste, reconnaissable. On reconnaît la scène, les éléments qui constituent la scène, les personnages, ce qu'ils peuvent se dire. Et donc, c'est une prise d'identification, ou plutôt de projection facile de la part du lecteur, qui va éprouver du plaisir, ou au contraire, il va dire, non, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a une autre dimension qui est celle, donc comme la syllabe, c'est à la fois dit le propre et le figuré. Il y a un autre versant de l'écriture où on est dans où cette objectivité finalement devient une subjectivité. Elle révèle ce qui semblait être un déploiement de surface, comme ça, des franchissements faciles, de frontières, des productions de preuves, va à un certain moment nous apparaître après coup. Lorsqu'on regarde le texte de près, comme étant des moments où l'espace révèle une temporalité, c'est-à-dire une verticalité, et c'est le travail de la mémoire du personnage qui doit régler des problèmes. Et l'écriture, parce qu'il s'engage absolument dans son écriture, lui donne la possibilité de s'approcher de ce moment-là où quelque chose de l'autre côté fait signe.
Donc vous nous dites que Hemingway, c'est un peu moins simple qu'il n'y paraît. Et pour être plus précis encore, l'essentiel finalement dans l'écriture d'Hemingway, c'est ce qui n'est pas dit. C'est le non-dit qui compte. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de lecture quand on entre dans un texte d'Hemingway, parce que vous pouvez le lire comme le texte se donne à lire, mais ce qui est le plus important, c'est justement ce qui n'est pas dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
ça ? Tout à fait. Le plus beau, c'est de lire Hemingway comme on lit de la poésie. Lire sa prose comme une poésie et aller chercher les relations, donc de sens, là où il y a du sens, dans les liens entre les mots, le rythme de la phrase, les images, plutôt que le récit, plutôt que l'histoire qui se raconte, même s'il racontait aussi des histoires. Et alors, en effet, là, il y a deux aspects, un aspect, disons, éthique, qui valorise le silence, le vide, un petit peu dans... on peut l'entendre aussi en pensant à Blanchot, hein, qui se soulevait contre le ressassement, cette muraille de mots, etc.
Donc ça donne cette espèce d'écriture blanche.
D'écriture blanche, le silence, ne pas parler pour ne rien dire, mesurer ses mots. Alors ces dialogues sont formidables pour ça, parce que le dialogue participe à la production du récit. Alors, il y a la dimension formelle qui est celle, en effet, ce couple chez Hemingway entre le dit avec le non-dit et l'indicible. Donc, le non-dit, c'est ce qui est maîtrisé par l'écrivain, par le narrateur, et qui en fait un objet un peu de devinette, de plaisir de deviner, de trouver du sens, parce que l'auteur a choisi de ne pas dire certaines choses. Donc, ça obéit à une volonté, c'est volitif. Mais Hemingway, c'est aussi l'indicible. C'est des butées sur un impossible à dire. D'ailleurs, le langage lui-même, on bute sur les parois du langage. Le langage ne peut pas dire cette vérité qui est perçue, qui est éprouvée, mais qu'on ne peut pas exprimer, mais qu'on va suggérer, surtout chez Hemingway, par des symboles spécialisés, comme le marécage. Ouais. Voilà, le marécage, par exemple, on prend une nouvelle très américaine, comme La Grande Rivière au cœur double. On a un personnage qui part à la pêche, etc. Mais au début, on a un déploiement de possibilités. Il est capable de se dépouiller du passé, de s'émanciper de sa mémoire et donc du temps. Mais en pêchant, il va à un certain moment buter sur une truite qu'il ne pourra jamais prendre. Elle ne pourra jamais attraper. Et qui va lui donner un sentiment d'avoir touché un excès et une impossibilité de contenir cette pulsion, finalement, qui émerge des profondeurs de la rivière. Et après ça, donc, il peut pêcher deux truites, mais la nouvelle se termine sur cette limite qu'est le marécage, où il dit « je ne peux pas pêcher dans le marécage parce que la pêche dans le marécage serait tragique ».
On va continuer de parler de tout ça en seconde partie de cette émission, Redouane Aboudaab, mais tout de suite, c'est le moment de la chronique proposée aujourd'hui par Étienne de Montetti.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire. Bonjour Étienne.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez aujourd'hui du dernier roman d'Orhan Pamuk, La femme aux cheveux roux.
Oui, en effet. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de présenter Orhan Pamuk, qui est un romancier turc qui a reçu le prix Nobel de littérature, l'auteur du magistral Musée de l'innocence. Et son nouveau roman, La femme aux cheveux roux, est un roman très intéressant autour de la notion de paternité et de filiation. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un roman dont l'histoire tourne autour d'un garçon qui s'appelle Sem, qui est le fils d'un pharmacien et qui est également un militant politique, et il souffre beaucoup de l'absence de son père, qui est très occupé par son engagement politique et également par sa conduite volage qui le tienne souvent hors de la maison. Et un été, Sem va, pour gagner quelque argent avant de rentrer à l'université, va s'engager chez un maître puisatier, puisque les puits, l'eau sont un enjeu important à Istanbul, et donc cet étudiant va devenir puisatier, creusant un puits. La question étant de savoir d'ailleurs si on va trouver de l'eau. C'est un enjeu, c'est le premier enjeu du roman d'ailleurs, cette espèce de quête de l'eau. Et puis aussi, on découvre peu à peu que Sem cherche autant de l'eau, qu'il ne cherche dans sa propre histoire à savoir un petit peu qui est son père et quelle est la place de son père dans son histoire. Le livre ensuite se complexifie avec la découverte pendant ce chantier du théâtre par Sem, par ce narrateur. Il découvre un théâtre ambulant qui se produit non loin du chantier et qui joue des scénettes qui vont fasciner le jeune homme. Il va également découvrir une comédienne magnifique qui va être pour lui l'incarnation de l'amour, d'autant qu'il va avoir avec elle la liaison.
C'est la femme rousse.
C'est la fameuse femme rousse qui est un symbole très important dans ce livre. Il va avoir avec elle une liaison, la première de sa vie, autant dire celle qu'on n'oublie jamais.
Alors comment les mythes prennent place justement dans ce roman, Étienne ?
Bien, peu à peu, on va découvrir effectivement l'importance des mythes, puisque Sem va se réaliser par lui-même. Il va devenir ingénieur géologue, il va devenir le patron d'une belle affaire immobilière. Et lui qui avait voulu devenir écrivain ne cesse de s'interroger au fond sur toutes ces questions autour de ses origines et de son enfance. Et il va se passionner littérairement pour la question de l'affrontement entre le père et le fils qui, comme on le sait, traverse beaucoup de livres, beaucoup de mythes de l'humanité. Ça va du livre de la Genèse avec le sacrifice d'Isaac à Œdipe roi évidemment. Et puis il découvre également un livre qui s'appelle le Shahnameh, et qui est le livre des rois iraniens, et qui est en quelque sorte le versant oriental de la tragédie de Sophocle. Et Sem, d'ailleurs, baptisera sa société immobilière Sorab, et Sorab, c'est le nom du fils dans la fameuse épopée. Mmh. Et on découvre que Sem, en réalité, outre la question qui se pose sur son père, est rongé par une inquiétude. C'est qu'un jour, il y a eu un accident sur le chantier, et qu'il a abandonné le chantier sans savoir ce qu'était devenu Maître Mammouth, le maître puisatier qui laisse au fond du puits avec un seau qui lui est tombé dessus. Et il s'enfuit dans un mélange de lâcheté et de peur. Et c'est évidemment ce remords qui le hante. Qu'a-t-il fait de cet homme qu'il tenait pour son père?
Est-ce que c'est lui qui l'a tué finalement avec ce seau?
C'est la question qui court toute cette partie du livre, d'autant que, et c'est là où on est un peu dans un conte, évidemment, le promoteur immobilier qu'il est devenu va revenir dans ce quartier pour faire des opérations immobilières, et évidemment le passé lui revient d'un coup à la mémoire avec cette question, mon Dieu, la malédiction d'Édipe qu'on connaît tous et qui nous terrifie, bien, est-ce que cette malédiction ne se serait pas abattue sur lui?
Alors, est-ce que c'est un roman réussi selon vous ?
Oui, parce que c'est un roman extrêmement romanesque. Cette femme aux cheveux roux est un livre dans lequel Pamuk entremêle plusieurs genres littéraires. Il y a évidemment donc ces mythes dont j'ai parlé et qui sont explorés sous toutes leurs facettes et qui donnent beaucoup de profondeur à ce récit. Et puis il y a une chronique politique et sociale de la Turquie moderne. Ça aussi, c'est l'autre part de Pamuk. Il décrit l'évolution de cette ville Istanbul, la fièvre immobilière qui y règne. Et puis également, il décrit très très bien les milieux d'extrême gauche qui sont traversés par une sorte de radicalité qu'on ne connaît pas forcément en Europe. Et puis il y a ce personnage de Sem, qui est un homme à la fois sensible, cynique, entreprenant, fataliste. C'est un très très beau personnage. Et puis enfin, il y a la grande leçon de Pamuk, qui est celle qui clôt ce livre. C'est que les hommes, qu'ils s'appellent Édipe, Sorab, Sem, qu'ils soient criminels ou victimes, qu'ils vivent il y a 5000 ans à Thèbes ou aujourd'hui à Istanbul, eh bien, quel qu'il soit leur destin, et c'est d'ailleurs un peu accablant, leur destin est toujours le même.
La femme aux cheveux roux d'Orhan Pamuk, c'est chez Gallimard, dans une traduction du turc par Valérie Gay-Askoy. Merci Étienne de Montetier, on retrouve votre signature dans les colonnes du Figaro littéraire, en kiosque tous les jeudis.
la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au deuxième jour de notre semaine consacrée à Ernest Hemingway. Nous sommes avec Redouane Aboudahab qui nous parle de pulsions, de limites, de mort, d'un rapport aussi avec l'Amérique de cet écrivain. Pour repartir dans cette émission, je vous propose d'écouter un extrait de sa nouvelle Le Village Indien, extrait elle-même du recueil Les Aventures de Nick Adams.
À peine débarqué, un jeune Indien les mena sur un sentier qui montait aux collines. Bientôt, devant eux, ils virent les lumières des cabanes où les Indiens, des écorceurs d'arbres, vivaient. Dans la cabane la plus près de la route, il y avait une lumière à la fenêtre. À l'intérieur, sur une couchette de bois, une jeune Indienne était étendue. Depuis 2 jours, elle essayait d'avoir son enfant. Elle cria juste au moment où Nick et son père entrèrent dans la cabane, suivis de l'oncle George. Elle était étendue dans la couchette du bas, très grosse sous le couvre-pied, la tête tournée de côté. Son mari était dans la couchette au-dessus. 3 jours avant, il s'était sérieusement coupé le pied avec une hache. Il fumait sa pipe. Ça sentait très mauvais dans la chambre. « Cette dame va avoir un bébé, Nick, » dit le docteur. « Ce qu'elle est en train de subir s'appelle être en travail. Tous ses muscles s'efforcent de faire naître le bébé. Mais si le bébé ne se présente pas à la tête la première, je vais être obligé d'opérer cette dame. » À ce moment, la femme poussa un nouveau cri. Le père de Nick mit de l'eau à chauffer. Quand il commença l'opération, elle mordit l'oncle George qui la maintenait et le jeune Indien se mit à rire. Nick tenait la cuvette pour son père. Tout cela prit beaucoup de temps. « C'est un garçon, » dit enfin le père. Puis il se pencha sur l'Indienne. Elle était très pâle, mais tranquille. « Jetons un coup d'œil sur l'heureux papa, » dit le docteur. Il se hissa sur la couchette supérieure, une lampe à la main, et regarda. L'Indien était étendu, le visage contre le mur, baignant dans une flaque de sang. Sa gorge était tranchée d'une oreille à l'autre. Un rasoir ouvert était sur les couvertures, la lame en l'air. « Fais sortir Nick de la cabane, George, » dit le docteur. Ce n'était pas la peine. Nick avait eu le temps de voir la couchette trempée de sang. Il commençait tout juste à faire jour quand ils se retrouvèrent sur le sentier en marche vers le lac. « Pourquoi s'est-il tué, papa ?»« Je ne sais pas, Nick. Il ne pouvait pas en supporter davantage, je suppose. »« Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se tuent, papa ?»« Pas beaucoup, Nick. »« Est-ce que c'est dur de mourir, papa ?»« Non, je crois que c'est assez facile, Nick. »« Ça dépend. »
Lecture par Guillaume Gallienne, Redouane Aboudahab. En quoi c'est un exemple, ce qu'on vient d'entendre, de ce que vous disiez plus tôt de cette écriture du non-dit, par exemple
Lorsqu'on lit la nouvelle, qu'on a un texte à l'appui, il faut voir un peu, il y a des blancs narratifs, comme disait Flaubert, comme disait Proust en parlant de Flaubert, donc des blancs narratifs, des choses qu'on attend, une ouverture brutale dans le continuum temporel, une medias res, on se retrouve tout de suite. Et ce qui est intéressant dans cette nouvelle en particulier, c'est qu'on peut la voir à travers le point de vue de l'enfant. Donc Nick doit avoir 8 ans, il accompagne son père. Et lorsqu'on regarde la nouvelle à travers les attentes de l'enfant, ses limites intellectuelles, affectives, une interprétation intéressante se présente, qui est celle de, qu'on peut formuler ainsi, comment faire produire du savoir au père. Le père tel que vu par l'enfant, un garçon qui se structure par la force, le pouvoir, le savoir du père.
Parce qu'il faut redire que donc le père de l'enfant en question est médecin. Le médecin emmène son fils voir cet accouchement. Ça se passe évidemment très mal. Il y a la mort du père du bébé, mais une mort très très mystérieuse. Enfin, pourquoi ce suicide? C'est là aussi peut-être que le non-dit se cache. Et puis, après, il y a le retour du père et du fils et l'excuse du père vis-à-vis du fils qui lui dit finalement « je n'aurais pas dû t'emmener là ». Mais en même temps, le père avait envie de montrer à quel point il était fort aussi, à quel point il était viril, comment il pouvait, dans des conditions extrêmes,
sauver cette femme et lui permettre d'enfanter. Qu'est-ce que vous voyez un peu dans tout ça?
Alors, c'est un obstétricien, il est génial parce qu'il utilise des moyens de fortune pour faire une opération, un couteau de poche, puis tout l'attirail de pêche pour coudre, enfin, il y a quelque chose d'assez incroyable. Le père d'Hemingway était un excellent obstétricien aussi.
Les nouvelles considérées comme les plus autobiographiques, ces nouvelles-là.
Oui. Mais tout en gardant à l'esprit qu'il y a un changement de scène et donc de logique de
toujours dans la limite entre la réalité, la
réalité et la fiction. Nick Adams, c'est un personnage formidable. C'est la voix un peu la plus intime d'Hemingway. Nick, en anglais, bon, c'est un nom assez courant, mais Nick signifie aussi l'entaille, l'encoche, et c'est par là, cet interstice qu'il s'est introduit dans l'œuvre d'Hemingway. Mais cette nouvelle, par exemple, avait déjà une introduction de 4 pages dans laquelle Nick, un enfant, hallucine son angoisse de l'ombre, son père et son oncle étant partis pêcher, l'ont laissé seul sous la tente, et puis lui ont donné une carabine, lui ont dit, si tu as peur de quelque chose, tu tires dans l'air et on reviendra. Et d'ailleurs, ça a été intitulé à titre posthume, puisqu'elle a été publiée à titre posthume, 3 coups, 3 shots. Déjà ça, il a jugé que c'était trop dire sur la peur de Nick, et donc c'est un non-dit, et l'état émotionnel de Nick doit être deviné, perçu par le lecteur. Mais ce savoir du père qui dit « je n'entends pas les cris », il est assez puissant. Ça veut dire que ce médecin-là...
Le père indien, en l'occurrence, qui n'entend pas... Ah non, pardon, le père médecin qui n'entend pas les cris de la femme simplement procéder à l'accouchement.
Le cri, ça qui compte, ça. Voilà, exactement. Le cri, ce n'est qu'une affaire de muscles, de contractions, donc il est protégé par le savoir médical, on peut le comprendre. Mais Nick, non, il est attentif à la souffrance. Et le père, à la fin, se rend compte de l'erreur. Il lui dit, oui, t'aurais pu devenir interne maintenant. Puis le narrateur dit, il est tout excité comme un joueur de football dans le vestiaire, etc. Comme un adolescent. Et le père, sur le chemin du retour, alors qu'à l'aller, en traversant le lac, Nick était entre les bras de son père, protecteur et tout, sur le chemin du retour, là où Nick a fait l'épreuve de la mort, comme Hemingway le fera à l'âge de 19 ans, sur le champ de bataille, qui fait l'épreuve de la mort, il a tout vu, un suicide, l'effondrement du père et de son père à lui, doit trouver sa propre formule.
Donc c'est une nouvelle initiatique.
Initiatique dans le sens artistique, mais pas une initiation au savoir du père. Parce qu'on peut dire au départ que lorsqu'il lui dit « tu aurais pu devenir un interne », donc on peut croire que Nick intègre un savoir. Mais dans le système de l'écriture, pourquoi je ne dirais pas trop ça, initiatique, parce que l'initiation laisse supposer l'intégration d'une voix balisée. Alors que là, non. Il part, là, il est dans le devenir, il est dans la surprise, et sa formule, c'est quoi? C'est qu'il sent dans le soleil montant, se levant derrière les collines, il sent qu'il est immortel. Ouais. Et il en a la certitude.
Donc, il y a ce dépouillement dans l'écriture et dans la narration aussi, dont la visée, dites-vous, est de faire sentir l'intensité du réel. Or, beaucoup de critiques ne l'ont pas perçu, cela. Est-ce que vous avez l'impression que Hemingway est peut-être aussi caché par justement sa légende et par la virilité affichée de manière un petit peu quand même souvent ostentatoire, mais qu'en même temps il semble critiquer lui-même de l'intérieur, comme on l'entend dans cette nouvelle? Est-ce que vous avez l'impression que donc tout cela a fait écran à sa bonne compréhension?
Oui, moi je pense qu'il y a, beaucoup de cela, ça exprime cette incompréhension. La légende peut pas Hemingway, qui était aussi connu qu'une star d'Hollywood, il faisait la une de grands magazines comme Time Magazine, comme Life, etc. On le voyait. Et l'ombre de l'auteur, qui vivait lui aussi, qui est un grand aventurier, a écrasé justement le personnage. Mais le personnage n'est pas l'auteur. Et c'est pour ça que on ne peut pas dire que c'est une autobiographie romancée. C'est plutôt une élucidation de soi qui tient compte de la pérennité. C'est quelqu'un qui, en écrivant, voulait que ses phrases, il disait qu'elles soient vraies pour toujours. Mmh. Et ça lui a imposé une discipline, une modestie aussi. C'est quelqu'un qui refusait de parler de ses œuvres, de faire des conférences et dire voilà ce que je voulais dire, ce que je dis. Je connais Cézanne parce qu'on le prenait un peu pour un baroudeur, l'homme sauvage des bois, alors qu'il avait une connaissance très raffinée de l'art, de la musique, de la littérature. Mais il ne dévoilait pas ça, il le laissait travailler dans le texte, escomptait que le lecteur puisse le percevoir. Donc il est dans une sorte de minimalisme.
Mmh. Et c'est ça qui est déconcertant, parce qu'il est a priori moins déconcertant, je ne sais pas moi, que Virginia Woolf ou Faulkner ou Joyce. Et en même temps, il l'est peut-être plus parce que ce qui déconcerte ne se voit pas.
Exactement. Là où Faulkner, Virginia Woolf déploient une certaine rhétorique baroque, tout en arabesque, comme des phrases longues, très complexes, Hemingway fait exactement le contraire. Son écriture est de structure litotique. C'est-à-dire on ramasse, on réduit, ce ne sont pas les énoncés qui relèvent de la litote, mais le discours lui-même, dans son ensemble.
There was a long white beach with coconut palms behind it. The reef lay across the entrance of the harbor, and the heavy east wind made the sea break on it so that the entrance was easy to see once you had opened it up.
Non, on entend ici la voix de Hemingway lisant un de ses textes. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose de l'entendre, cette voix. Je voudrais qu'on parle un petit peu du thème de l'Amérique dans l'œuvre de Hemingway, parce que vous vous êtes intéressé justement à ce sujet. Le thème de l'Amérique est presque absent de ses romans. On l'a vu hier, il y a même une espèce de rejet de l'Amérique. Mais les lieux de l'enfance et de l'adolescence en Amérique sont présents, et on l'a entendu dans la nouvelle, le village indien, sont présents dans les nouvelles. Comment est-ce que vous pourriez qualifier le rapport d'Hemingway avec l'Amérique? Quel est son imaginaire des États-Unis?
Très bonne question et assez complexe, parce qu'elle renvoie à un affect très puissant, qui est un affect noué en quelque sorte, qui est de cette relation avec l'Amérique, parce que la relation avec l'Amérique, c'est aussi la relation avec la famille. La relation avec la famille, c'est la relation avec la mère. Et le père, mais surtout la mère. Donc il y a quelque chose de brûlant. Mais Sacha Guitry disait « Je suis contre les femmes, tout contre ». Mmh. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. « Je suis contre l'Amérique, tout contre ». Donc il y a un rapport très ambigu, il y a un rejet, et en même temps une conscience de son identité. Hemingway n'utilise pas beaucoup l'expression, le pronom pluriel « nous », comme d'autres pourraient le faire. Sauf lorsqu'il raconte son le moment où il a libéré le Ritz à Paris en 1945. Là, il dit « nous », hein, donc c'est l'identité nationale américaine. Mais sinon, il y a un « je », J-E, qui cherche à se dissocier constamment de ce « nous », voire de rompre géographiquement d'abord, parce qu'il n'a plus jamais remis les pieds à Oak Park, là où il est né, où il a grandi jusqu'à l'âge, il est resté jusqu'à l'âge de 18 ans. Et il n'évoque jamais Oak Park dans ses récits. Quand il veut faire référence à Oak Park, il mentionne l'Oklahoma. Vous voyez, il joue comme un poète, il joue sur le signifiant, sur la musique du signifiant.
Et alors vous expliquez dans un article dans lequel vous parlez du peintre Hopper, que finalement Hopper et Hemingway, c'est un peu la même esthétique, et que finalement regarder un tableau de Hopper, c'est un petit peu comme de lire un chapitre ou une nouvelle de Hemingway. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi?
Tout à fait. Pour moi, ce sont deux artistes qui ont réussi à architecturer le silence.
Donc c'est deux artistes américains,
américains.
Qui produisent un art américain.
Américain. Et tous deux se présente une première possibilité de lecture, présente une première possibilité de lecture qui est assez facile, qui est celle de la représentation de l'Amérique, etc. Et lorsqu'on regarde de près, on voit qu'il y a quelque chose quand même d'instable dans les tableaux de Hopper, comme son célèbre rôdeur de nuit, Night Hawks, que Hopper a écrit après la lecture de The Killers. les tueurs dont on a parlé tout à l'heure. Une fois, dès qu'il a lu ce récit, il en a été tellement ému, touché, puis il a été touché par la forme justement qui joue sur le non-dit, l'indicible et le silence, qu'il a peint ce récit. Et donc on peut lire les deux récits, on peut les mettre en vis-à-vis, et finalement le récit qui cite le premier, c'est-à-dire Hopper qui cite Hemingway, peut bénéficier aussi en retour, après coup, de la prose d'Hemingway pour que ce tableau puisse libérer de nouveaux sens.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de très américain dans le double fond dont vous parliez tout à l'heure, à la fois de la peinture de Hopper et de la littérature de Hemingway, c'est-à-dire au départ une volonté quand même de transmission d'une histoire qui va un petit peu contre les avant-gardes qui sont jugées un petit peu trop opaques. Dans la peinture de Hopper, il y a aussi cette espèce de grande, bah, d'abord c'est du réalisme et puis espèce de grande transparence finalement du sujet, et en même temps ce double fond toujours très présent.
Oui, tout à fait.
C'est la vie quotidienne qui est montrée dans un cas comme dans l'autre, mais une vie quotidienne qui tout d'un coup subit un léger décalage.
Oui. C'est vrai que quelque chose chez Hopper et chez Hemingway montre un peu cette Amérique-là, l'Amérique elle-même n'étant pas transparente, il y a des paradoxes, notamment l'individualisme américain, la liberté, la démocratie, l'exceptionnalisme, toutes ces figures qui font ce qu'on appelle l'américanité, la confiance en soi, la nécessité de réussir, la nécessité de réaliser
ses désirs.
La virilité,
justement, dont on parle beaucoup dans cette émission.
Tout à fait. Donc, toutes ces valeurs qui constituent l'Amérique. Mais tout à l'heure, on a parlé de la grande rivière au cœur double, une nouvelle athlétique où on a un pêcheur qui va faire montre de ses capacités. Mais le point le plus important dans ce récit, c'est l'échec. Ce qui est important, c'est la truite qu'il n'a pas prise, pas les deux qu'il attrape à la fin. Mais c'est celle-là, celle qui fait trou dans la chaîne du discours, qui est représentée par la ligne du pêcheur. Est-ce qu'il est capable de pêcher? C'est ce qu'il est capable aussi de convertir en écriture. Mmh. Mais c'est cette manière, comme Melville, comme la baleine de Melville. C'est-à-dire, au lieu de mettre l'accent...
Comme dans Le Vieil Homme et la Mer, il y a aussi...
Alors, Le Vieil Homme et la Mer est fabuleux pour ça.
Enfin, on en parlera demain de ça.
Oui, oui. Donc, au lieu de mettre l'accent sur la réussite, il montre... sans trop l'exhiber, l'échec. On peut dire que c'est la réussite de l'échec, finalement, Hemingway. Alors que le discours populaire américain va être la réussite de la réussite. Il faut toujours montrer qu'on a réussi et qu'on est capable de faire reculer les limites. Alors qu'Hemingway se sent des butés sur les limites du possible. Et c'est quelqu'un, finalement, qui induit une certaine modestie, une certaine humilité dans le rapport à l'identité et à soi.
Il nous reste très peu de temps, Redouane Aboudahab, mais j'aurais voulu que vous nous disiez un mot de quelque chose qui est tout de même très étonnant, qui est une lecture presque queer de Hemingway. Alors, il y a évidemment un contresens à dire que Hemingway était queer, mais en même temps, vous montrez bien comment un certain nombre de ces personnages sont à la limite de l'androgynie, parce que notre émission est sur le thème de la limite, et que, sexuellement parlant, il y a aussi un espèce de va-et-vient qui n'est pas du tout évident, justement, dans la virilité hemingwayenne, mais qui est pourtant bien là.
Tout à fait. Et c'est là où cette écriture est intéressante, elle est authentique. C'est pour cela que l'aventure devient, ces surfaces aventureuses, aventurières, réduisent finalement le possible à ce qui m'advient. Ça devient quelque chose qui m'advient. Et donc, ça devient une élucidation de soi, une exploration de soi, et donc une traversée des couches d'images, d'affects, identitaires, jusqu'au moment où l'on trouve ce qu'on est réellement. Et ce qu'on est réellement, au-delà de la limite symbolique, de la norme, de l'interdit, de ce qui est convenable, ce qui ne l'est pas, on trouve le désir. Et ce désir que Hemingway a identifié au plus profond de lui-même, et en tout cas qu'il a écrit, c'est celui de l'androgyne. En effet, il y a, on peut dire, bisexualité ou androgynéité, et où ces personnages... Alors, c'est déjà là, dans les textes qu'il a écrits de son vivant, mais il va l'écrire de manière beaucoup plus explicite dans un roman qui a été publié à titre posthume, Le Jardin d'Éden, où c'est en effet un drame entre un couple... où la jeune femme va devenir, se transformer en garçon.
Alors on n'a pas le temps de développer malheureusement sur ce thème, mais c'était bien de signaler qu'il existait. Merci beaucoup Redouane Aboudahab.
Je rappelle que vous êtes professeur au département de littérature américaine à l'Université du Mans, auteur notamment du livre « L'écriture limite, poétique des nouvelles de Hemingway » aux éditions Merry World en 2012. C'était la compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travagli, Chanel Garance, Mazelier et Alexandre Dang. Demain, nous continuons à explorer l'écriture d'Hemingway à travers deux romans en particulier, Le soleil se lève aussi et Le vieil homme et la mer. Mais tout de suite, sur France Culture, c'est le retour de Jacques Bonnafé pour ses lectures de textes poétiques.
Bonjour, bonjour la compagnie. Charles Cros, mais pourquoi? Quel anniversaire? Il n'y a pas d'anniversaire. Au départ, c'était parti de ce poème. Le grand lion est mort. Il reste les renards, les fouines, les chiens, les rats et les lézards. Ces bêtes ne sont pas absolument impures. Elles savent manger nos plus sales ordures et peuvent nettoyer nos plus puants égouts. Mais lui, le grand lion, n'avait pas de ces goûts. Il allait à travers la forêt séculaire, et sans souci d'ailleurs de plaire ou de déplaire, posait sa bonne patte onglée entre les houes des clôtures et sur les sages rangs de choux que les tranquilles, que les lâches, trois ou quatre en France, arrosent sans penser qu'on va se battre. La patte onglée était belle, écrasant les choux. Et vous, lézards, vous chiens, rats, fouines, et vous, renard, qui vous rendra votre folle assurance? Le grand lion est mort dans la forêt de France. Un texte écrit à la mémoire de Gambetta, livre recueil posthume. Alors il y a les grands hommes et puis il y a les gagne-petits. Où c'est que vous rangez le poète Charles Cros? Ben, c'est vous qui votez. Vous choisissez. Il a tout fait, tous les métiers. Sa simple vie se passe loin du bruit, loin des cris, de l'envie et des ambitions vaines du boulevard. Pour ce jour attendu qui s'annonce blafard, les savants ont prédit avant l'heure où se couche le soleil une éclipse. Et sa maîtresse accouche, apportant un enfant parmi tant de soucis. Il compte pour dîner sur ses vers noircis. Carrière de Montmartre en vos antres de gypse, abritez le marchand de verre pour éclipse. Carrière de Montmartre en vos antres de gypse, abritez le marchand de verre pour éclipse. C'est extrait du coffret de Santal. Alors on peut mettre en réponse Mallarmé, qui est né exactement la même année que Charles Cros, en 1942, parce que la viande était à point rôtie, parce que le journal détaillait un viol, parce que sur sa gorge ignoble et mal bâtie, la servante oublia de boutonner son col, parce que d'un lit grand comme une sacristie, il voit sur la pendule un couple antique et folle, où qu'il n'a pas sommeil et que sans modestie, sa jambe sous les draps frôle une jambe au vol. Un niais met sous lui sa femme froide et sèche, contre ce bonnet blanc frotte son casque à mèche, et travaille en soufflant inexorablement. Et de ce qu'une nuit sans rage et sans tempête, ces deux êtres se sont accouplés en dormant, ô Shakespeare, et toi, Dante, il peut naître un poète.
Merci Jacques Bonnafé, vous nous lisez cette semaine des textes de Charles Cros.